accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Rangta, camurra e mafia, è società organizzata.
Bonjour à tous. Comment vaincre la criminalité quand les réseaux mafieux sont bien implantés et rémunérateurs? La question se pose dans presque tous les pays européens. Chaque année, sur le continent, plus de 110 milliards d'euros sont ainsi tirés du seul trafic de drogue, de tabac, des fraudes à la TVA et du vol de cargaison. En Italie, la région la plus pauvre du pays, la Calabre, est depuis des décennies en prise avec la plus puissante des mafias, la 'Ndrangheta. Dans cette région enclavée, la 'Ndrangheta continue d'intimider la population pour maintenir son contrôle économique. Mais depuis quelques années, les Calabrais s'organisent pour résister à l'emprise de cette mafia, malgré les menaces, en proposant des alternatives économiques à la population. C'est le reportage de notre correspondante Blandine Hugonnet.
Entre mer et montagne, dans les hauteurs du Locride, sous la semelle de la botte italienne, nous avons rendez-vous dans le restaurant de Pino Trimboli. C'est une adresse appréciée de la région qui a attisé l'intérêt de la mafia. Mais ce cuisinier a choisi son camp.
En Calabre, tu ne peux pas te permettre de rester neutre. C'est tout noir ou tout blanc ici. Moi, j'ai pris le parti de la légalité. C'est ce en quoi je crois.
Au milieu d'une salle pleine de clients, ce père de quatre garçons nous raconte. Après une série d'intimidations, il est menacé de mort par des mafiosi en 2019. Pour ne pas être seul dans son combat, il a donc rejoint le groupe Goel, une coopérative qui rassemble entrepreneurs, agriculteurs et travailleurs victimes de la mafia calabraise. Un groupe de 350 personnes qui, comme lui, refusent de céder.
Je n'en dormais pas la nuit, je me sentais seul. Alors avoir une autre famille comme le groupe Goel en soutien et avoir eu la possibilité de raconter tout publiquement, parce qu'ici encore il y a une vraie omerta, eh bien ça a attiré l'attention sur nous. Et on a eu tout de suite plein de gens qui ont choisi de venir au restaurant justement parce qu'on a eu le courage de dénoncer. Et depuis, les menaces se sont arrêtées.
L'effet de groupe, la solidarité et la médiatisation des agressions mafieuses, voilà les outils pour se protéger de la 'Ndrangheta, assure Vincenzo Linarello. C'est lui qui dirige la coopérative Goel et depuis 20 ans, il se bat aux côtés de ceux qui résistent à la mafia.
Ils ont versé des litres et des litres de liquide inflammable et un incendie énorme s'est propagé ici. Les flammes étaient tellement fortes que le toit s'est effondré. Mais c'est ici qu'on a gagné une bataille contre la 'Ndrangheta.
Nous sommes dans une exploitation agricole vue sur la mer. Ici à l'entrée, un tracteur complètement calciné. Derrière, l'étage d'un bâtiment brûlé. Les stigmates des derniers incendies mafieux subis par cette ferme. 7 ans. Alors pour prendre le contre-pied, après chaque intimidation, on y organise de grandes fêtes.
Quand la 'Ndrangheta frappe, les gens disent « tu vois, rien ne changera jamais ici ». Et un peuple déprimé se tient mieux en laisse. Alors on mobilise les habitants, l'opinion nationale autour de la victime et la fête crée un élan de solidarité. Après, on va dans les médias locaux et on s'adresse directement à la 'Ndrangheta et on lui dit « cette exploitation avait un vieux tracteur, elle en a un tout neuf maintenant, merci. Plus vous nous attaquez, plus vous nous renforcerez.
Plus ci colpirete, plus ci rafforzerete.
Pour défier la plus puissante des mafias qui contrôle la plus pauvre des régions italiennes, il faut jouer sur le terrain économique, assure Vincenzo Linarello. Relancer l'emploi et revaloriser le territoire. Souvent laissé à l'abandon, le sud de la Calabre est difficile d'accès, manque d'infrastructures et détient le record de chômage des jeunes Italiens. Au milieu des vergers, des saisonniers cueillent les oranges une à une. En cette fin d'automne, c'est la récolte des agrumes. De l'autre côté de la vallée, Francesco Macaroni nous attend devant le hangar de tri entre Cagette de Clémentine et Bergamote. Toute la chaîne de production est gérée ici par la coopérative antimafia Goel Bio pour éviter les infiltrations mafieuses et les pertes d'argent. Ainsi, le prix du kilo d'orange a pu être multiplié par 10. Ces fruits sont biologiques, légaux et rentables, explique le jeune agronome de la coopérative.
Pour combattre la mafia, on a créé un modèle où la légalité, donc le fait de ne pas travailler sous la coupe d'un clan mafieux, la légalité dans les contrats de travail avec des jeunes qui réussissent à trouver un emploi ici, la légalité dans des vrais produits bio offre une ressource pour le territoire. Et où en plus, sur le bilan annuel, le fait d'être éthique, social et juste, c'est avantageux économiquement.
Ciao, salve.
En contrebas, sur le littoral, dans le centre-ville de Locri, se dresse l'Eco Ostello. C'est un immeuble arraché aux mains d'une famille mafieuse, aujourd'hui reconverti en hôtel pour accueillir les touristes. Un emblème local d'une victoire contre la mafia, se réjouit un de ses gérants, Gerardo Gnuta.
Avant ici, c'était un point de rencontre. Il devait y avoir un bar. Donc réussir à restituer aux habitants un bien confisqué à la 'Ndrangheta et le transformer en un hôtel éco-responsable, qui permet aussi de relancer le secteur du tourisme, c'est extrêmement important. C'est un symbole de rédemption.
Ces dernières années, la 'Ndrangheta s'est développée sur les 5 continents. Le trafic de cocaïne lui rapporte plus de 50 milliards d'euros par an. Mais ses racines restent bien calabraises. Pour s'affranchir de cette emprise, les victimes comptent donc sur la justice, comme Deborah Cartisano. Quand elle avait 12 ans, son père a été enlevé, puis tué par la 'Ndrangheta. Ses bourreaux sont depuis en prison. Mais la justice est rarement aussi efficace, déplore cette militante, désormais responsable locale de Libera, la principale association anti-mafia d'Italie.
Moi, je suis une exception. J'ai obtenu un peu justice, mais 90% des familles ne savent toujours pas qui a tué leurs proches, ni pourquoi. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de coupables arrêtés, jugés et condamnés. Ça, c'est une douloureuse réalité. Cette mauvaise justice nous fait encore beaucoup souffrir.
Mais un maxi-procès historique contre des clans de la 'Ndrangheta redonne de l'espoir au Calabrais. Il s'est ouvert dans le nord de la région il y a près d'un an et il a déjà permis la condamnation de 70 mafieux le mois dernier.
On les appelle les invisibles, ces jeunes de 15 à 25 ans qui décrochent sans avoir obtenu de diplôme. Depuis un an, le nombre de ces jeunes adultes qui ne sont ni dans le monde du travail, ni en études ou en formation, a augmenté en Europe sous l'effet de la crise sanitaire. Et ça pose de véritables problèmes de société, comme en Turquie, où 25% des jeunes sont au chômage. Comment les récupérer ? À Istanbul, les explications d'Anand Loer.
Être un jeune de moins de 25 ans en Turquie aujourd'hui, c'est avoir une chance sur quatre d'être au chômage. 25% de ces jeunes ne trouvent en effet pas de travail malgré leurs recherches, contre 17% en 2013, selon les chiffres officiels. Encore plus inquiétant, 28% des 15-24 ans en Turquie ne sont ni dans le monde du travail, ni dans celui des études. Traduction, ils n'ont pas d'emploi, n'en cherchent pas ou plus et ne se forment pas. Toutes les statistiques le montrent, les jeunes adultes paient le plus lourd tribut aux graves difficultés de l'économie turque ces dernières années, et notamment les jeunes peu ou pas diplômés. Le concept d'école de la deuxième chance n'existe pas vraiment dans le pays, mais à l'approche des élections prévues en juin 2023, le poids électoral des jeunes et donc leurs préoccupations s'invitent de plus en plus dans les programmes des partis, à commencer par ceux de l'opposition qui compte bien faire campagne sur les déboires de l'économie. C'est ainsi que le Bon Parti, étoile montante sur l'échiquier politique turc et membre de la principale alliance d'opposition, a récemment proposé d'ouvrir des écoles de la deuxième chance s'il arrivait au pouvoir. Il s'agirait, comme c'est le cas ailleurs, de financer des formations à des jeunes sans emploi ni qualification. L'idée fait son chemin dans le débat public et il ne serait pas surprenant qu'elle soit reprise sous une forme ou une autre par l'AKP, le parti du chef de l'État. Car après 19 ans au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan sait qu'il aura fort à faire pour convaincre les jeunes de lui accorder leur confiance.
Et en France, 13,5% des 15-29 ans sont sans emploi, sans formation ou études. C'est 1% de plus qu'il y a un an et l'épidémie de Covid-19. Mais dans le nord de la France, à Liévin, une école tente de changer la donne. Son nom, l'école de la deuxième chance. Elle accompagne des centaines de jeunes de 16 à 27 ans sans aucun diplôme et en décrochage, avec pour objectif de leur redonner envie d'apprendre. Il y a 135 écoles de ce type en France. Le reportage de Lise Verbeck.
Vous m'envoyez votre lettre en même temps ? C'est pas... J'ai remis votre CV, mais il me manque juste votre lettre et je l'envoie.
Ce jour-là, dans l'une des salles de classe, quatre jeunes, devant leurs ordinateurs, sont à la recherche d'un stage accompagnés d'un formateur.
Vous demandez dans quoi vous cherchez ?
Dans le service de restauration, et lui, c'est comique...
Comique cuisine.
Voilà. D'accord. Et vous êtes sur quel site, là, du coup ?
Indeed. Juste pour regarder au cas où, on ne sait jamais, pour des petites adresses.
Et alors, vous voyez des offres qui pourraient correspondre ?
Bah, y en a, oui. Mais il y en a, ça fait trop loin. Genre, tout ce qui est Arras, vu que je suis en transport en commun, ça fait loin quand même.
Et vous, vous arrivez à trouver, du coup?
Bah, ouais, là, je regarde les différents restaurants qu'il y a dans le coin, et puis j'irai voir demain. Demander s'ils prennent des stagiaires, et ouais, peut-être leur laisser un CV aussi.
Dans la pièce d'à côté, Morane, elle, finalise sa sortie de l'école de la deuxième chance, le 2C, comme on l'appelle ici. La jeune femme de 24 ans est arrivée il y a 5 mois.
J'étais pas trop pour au début, et ben voilà. Ah, ça faisait peur, le mot école.
Pourquoi?
Une mauvaise expérience du passé, qu'on peut dire. J'ai arrêté l'école en 2016, 2 mois avant le bac. Je me sentais pas capable de continuer en bac. J'étais pas faite pour l'école, alors que j'ai toutes les capacités pour.
Et ça, vous le saviez pas?
Je le savais pas avant de rentrer à l'E2C.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous dire « Bon, bah, je vais aller voir ce que c'est et puis on verra. »
Bah, le fait de faire quelque chose de sa vie, on peut dire. Parce que rester chez soi, c'est pas le top. Et surtout ben, qu'on sortait de tout ce qui était confinement, tout ça. Donc la confiance en soi, elle la baisse, on bouge plus. Du coup, ben, ça me faisait sortir de ma zone de confort. Je me suis bien torturée l'esprit. Là, allez, hop, t'y vas.
Comme Morane, c'est difficile pour les jeunes sans diplôme de franchir la porte de l'école. Alors Peter Loez, chargé de recrutement, va les chercher là où ils se trouvent.
Si on les attend ici, on ne les trouve pas, les jeunes. On parle beaucoup des invisibles en ce moment, c'est-à-dire les jeunes qui ont quitté le système scolaire et dont on n'a plus de traces. Moi, mon boulot, c'est d'aller les rencontrer partout, en bas de leur immeuble, dans leur quartier, dans les centres sociaux, dans les centres de sport, dans la rue. Et puis voilà, les rencontrer dans un endroit déjà où ils se sentent en confiance. Bah, je leur parle de ce qu'on fait ici. Je démystifie déjà le mot école parce que voilà, on s'appelle l'école de la deuxième chance. C'est un mot qui peut parfois faire peur aux jeunes. Je leur dis qu'on n'est pas une école, qu'on est un centre de formation, on est une école entreprise. Et que dans les activités qui leur seront proposées, on sera très loin du monde de l'école, hein, même si je ne critique pas du tout l'éducation nationale. Mais en tout cas, on sera vraiment sur quelque chose de très dynamique, sur la reprise de confiance et d'aller nouer des liens et travailler les ateliers qui leur permet vraiment de s'intégrer le mieux possible dans le monde du travail actuel.
Morane a été accompagnée pour trouver un projet professionnel qui lui correspond et elle va entamer une formation d'auxiliaire de gérontologie.
J'étais pas sûre de moi, j'étais pas confiante. Et là, j'en ressors vraiment confiante. Et épanouie, on peut dire.
Car l'école, si elle les remet dans une dynamique d'insertion professionnelle, travaille aussi sur les compétences psychosociales.
On a aussi des jeunes qui ne se voient pas.
Emmanuel, formateur.
Ils arrivent chez nous, je ne sais rien faire, je suis nul, j'ai tout raté. Voilà. Et nous, l'idée, c'est de dire, bah non, on va partir de toi, bah non, t'as pas tout raté. Bah non, puis tu as des compétences. Donc c'est parfois réactiver des bonnes connexions positives pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour avancer.
Steven est à l'école de la deuxième chance depuis le mois de mai. Il y a découvert le métier de chauffeur-livreur grâce à un premier stage et souhaite apprendre le métier. Il est désormais armé pour affronter le marché du travail après des mois de chômage.
Mon gros problème, c'est que j'arrivais pas à gérer mon stress. Quand je devais passer un entretien, etc., ça me paralysait un peu. J'avais la boule au ventre, j'avais un peu la tremblote. Et puis bah, je bégayais à chaque fois que je parlais.
Et ça, aujourd'hui, vous avez appris à le gérer?
Ouais.
Comment?
Au fur et à mesure de faire des simulations d'entretien, ce qu'on fait ici, genre avec des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise. Et puis bon, on m'a dit comment faire, de quoi parler, ce qu'il ne faut pas dire, etc. J'arrivais pas à regarder droit dans les yeux une personne. Et ça, on m'a dit de le faire, de le faire, de le faire. Bah, du coup, j'arrive un peu plus à le faire. Moi, sinon, ça m'a beaucoup aidé.
200 entreprises de l'Artois participent activement à l'école de la deuxième chance, des partenaires essentiels qui ont aussi besoin de l'école, notamment pour les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, explique Cécile Dupont, chargée des relations entreprises à l'école.
Depuis 2 ans, on met en place ce qu'on appelle des parcours spécialisés. Donc, en fonction du besoin d'une entreprise, on va monter un groupe de recrutement. Je vais prendre un exemple, transport logistique, une entreprise sur Arras qui avait besoin de 8 contrats d'apprentissage pour les former sur le poste de chauffeur poids lourd. Et ben, on a monté un graine de transport et logistique. Et pendant 4 mois, on a fait comme un sas de recrutement où on a pu montrer aux jeunes ce qu'était le métier de transporteur, ce qu'était le métier de la logistique. Ils ont pu tester, ils ont fait des stages. Nous, on les a remis à niveau. Et derrière ça, ils ont pu décrocher leur contrat d'apprentissage pour ceux qui voulaient toujours continuer.
Chaque année, entre 250 et 270 jeunes passent par l'école de la deuxième chance de l'Artois. 67% en ressortent avec le sentiment d'avoir réussi, car ils ont soit obtenu un contrat d'apprentissage, un CDD, voire un CDI, soit ils s'engagent dans une formation.
Il y a le décrochage scolaire, mais comment faire pour trouver du travail quand, en plus, il y a un passage en prison ? En Italie, une communauté religieuse travaille depuis des années dans les prisons. Avec son projet « Au-delà des barreaux », la communauté catholique Jean XXIII accompagne près de 300 détenus par an vers le retour en société. Leur credo, conjuguer formation avec l'idée du pardon à soi-même. Les explications de Cécile Debarge.
S'il ne fallait retenir qu'un chiffre pour résumer le travail mené en prison par la communauté Jean XXIII, ce serait celui-là. Parmi les détenus qu'elle accompagne, seuls 8% récidivent à leur sortie de prison, contre une moyenne nationale estimée entre 70 et 75%. Pour y parvenir, le projet Communauté éducative avec les détenus est présent dans une quarantaine de prisons du pays et suit près de 300 détenus majeurs et mineurs. Le projet de réinsertion intervient en fin de peine. Les détenus souhaitent souvent une libération anticipée ou une assignation à résidence. La communauté leur propose un étroit maillage de soutiens sociaux, psychologiques, professionnels et parfois familiaux afin de faciliter leur retour à la vie civile. Le parcours s'articule autour de trois moments importants. D'abord, une réflexion autour du travail et de la culture de la légalité et des droits. Plusieurs ateliers de formation professionnelle ou thérapeutique sont alors proposés aux détenus, des groupes d'écoute, de lecture, des sorties de groupe, des animations de la messe ou des ateliers de musique, de théâtre ou de bricolage. Puis, une place centrale est donnée à la réinsertion professionnelle. Des stages sont organisés pour apprendre un métier, notamment. C'est aussi le moment où la communauté tente de renouer ou renforcer les liens familiaux du détenu. Une réflexion est menée autour de la victime et de la compensation éventuelle que le détenu pourra lui faire parvenir. La troisième et dernière phase est celle de l'autonomie. Selon les progrès du détenu, sa peine peut être aménagée pour favoriser sa réinsertion en laissant une place centrale à son travail. Enfin, depuis 2012, la communauté a développé une université du pardon. Au-delà de la dimension religieuse, l'idée est d'accompagner les détenus vers le pardon des autres et d'eux-mêmes en faisant un outil psychologique, social et thérapeutique pour retrouver une place au sein de la société.
Music. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
C'est l'heure de notre rendez-vous musical et vous nous faites découvrir aujourd'hui un duo germano-danois.
Olicia, c'est un jeune duo formé par les autrices, compositrices Famam Boop et Anna Lucia Rupp qui se sont rencontrées lors de leurs études de musique à Dresde, en Allemagne, mais vivent aujourd'hui respectivement à Berlin et Copenhague. Après avoir publié deux maxis en 2018 et 2019, mais aussi donné beaucoup de concerts, Olicia sort cet automne son premier album dans le registre d'une pop très sophistiquée aux accents parfois jazz, ou plutôt devrait-on dire ses premiers albums, puisque Liquid Lines a été enregistré en deux versions différentes et est disponible sous la forme d'un double disque. D'un côté, la version dite orange, plus énergique et arrangée, et de l'autre, la version dite violette, plus calme. Et je vous laisse deviner à laquelle appartient le single Go Go Go. If you feel like leaving, you can tell me so. Sophie is the last one to say no to a chill. That's a way of saying yes to any group or family. For everyone to join, blue hair and openness are just a few of her power chords.
C'était Go 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 d'Olicia. Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr ou via notre podcast. À lundi. Anna is the first one to laugh and share a thought. That is why she is connecting just in one second.